Le Chat Noir Productions vous présente, de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, aux éditions Flammarion, Electrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Electrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, narrant toute l'histoire de la techno-music, racontée et vécue par Laurent Garnier, des années 80 jusqu'aux années 2000, la lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance music.
Dans cette 15e émission, nous allons nous propulser dans les années 90 et suivre avec la suite du 10e chapitre, Can You Feel It, le mouvement électro naissant en France, la French Touch.
Fabulous place.
Quelques mois plus tôt, le mensuel anglais Music avait élu l'album Pan Soul de Motor Bass, formé par Philippe Sdar et Étienne de Crécy, disque du mois. Dans la foulée, l'ensemble de la presse musicale anglaise salua la French Touch qu'une nouvelle génération d'artistes parisiens apportait à la house. Le terme French Touch, qui avait déjà au début des années 80 étiqueté les exploits de Metal Urbain, signé chez Rough Trade ou des Stinky Toys faisant la couverture du NME, fut repris à l'unisson par les médias européens pour qualifier l'avènement d'une nouvelle scène house parisienne, en réalité une bande de potes qui faisaient de la musique ensemble et se retrouvaient dans une boutique de disques de Bastille, Rough Trade, parmi lesquels Philippe Sdar, Alex Goffer, Thomas Bangalter, Boom Bass, Étienne de Crécy et Dimitri von Paris. Au début, l'appellation French Touch désignait un son, une house filtrée louchant sur le disco et la ghetto house. Paris tendait un pont vers les maîtres de Chicago, s'inspirant de leur son, et y ajoutait une touche pop. Les premiers disques estampillés French Touch ont en commun ce son rêche et funky, en droite ligne des productions des grands frères américains DJ Sneak ou Romantoni. Mais rapidement, tout artiste house parisien allait se voir estampillé French Touch. Le rôle des majors fut crucial dans l'explosion de ce courant. On peut même affirmer que ce sont elles, relayées dans cette entreprise par la presse, qui ont créé de toutes pièces la French Touch. Dans la première moitié des années 90, le terrain d'une musique électronique pensée pour l'export avait été balisé par une poignée de labels indépendants. Mais lorsque Emmanuel de Burtel, patron de Virgin France, signa les Daft Punk en 96, il se donna les moyens de préparer l'émergence d'une house française à l'étranger en bâtissant un solide réseau d'exportation et en déployant des moyens financiers colossaux. Au moment de la sortie de Homework, premier album des Daft Punk, tout était prêt pour une explosion internationale. La presse française s'empara de cette scène qui incarnait une facette présentable et pop de la musique électronique. Tandis qu'au même moment en France, les scènes transgoa, hardcore ou techno se développaient, qu'on trouvait des artistes passionnants à Lyon, Grenoble ou Bordeaux, la presse allait choisir de se focaliser sur un petit microcosme, la nouvelle scène house parisienne. Les radios généralistes prirent le relais, intégrant les morceaux issus de la vague French Touch dans leur playlist, alors que jusqu'ici, la techno n'avait jamais bénéficié de place sur leurs ondes. Une période d'euphorie commença. Les majors étaient toutes à la recherche de leur Daft Punk. En quelques mois apparut une nouvelle scène électronique française composée de dizaines d'artistes siglés French Touch. Kojak, seul vrai groupe de scène de la house française, iCube, révélé par Versatile, le label de DJ Gilbert, Bob Sinclair ou R, dont la musique sophistiquée était pourtant à des années-lumière des canons house. Des centaines de labels indépendants virent le jour durant l'année 97. Les ventes de tout ce qui était siglé French Touch s'envolèrent à l'étranger. N'importe quel label utilisant jusqu'à la nausée les recettes de la house filtrée pouvait espérer écouler 5000 maxi en Europe ou au Japon. La presse, grisée par l'avènement d'un succès musical français dans le monde, a posé alors sans discernement l'étiquette French Touch à toute la production électro-française. Les DJ devinrent des héros et la culture DJ s'imposa massivement auprès des adolescents en France. Les kids commandaient des platines pour Noël et oubliaient d'aller jouer au foot le week-end pour s'entraîner à mixer. À Paris, Radio Nova ouvrit ses week-ends à la culture DJ sous l'impulsion de Loïc Durie et DJ Gilbert. Le Nova Mix occupait l'antenne du vendredi 20h au dimanche 1h. Les plus fins représentants des musiques urbaines et électroniques se succédaient là. Dynasty, Lord Zelchko, Eric Rugg, Loïc, Gilbert, DJ Volta, Morpheus, DJ Clyde, Joey Star, Cut Killer, Yvan Smag, Jean Croc, Ariel Wiesman et d'autres. Je rejoignis l'équipe du Nova Mix à la rentrée 97. Les Nova Mix furent une expérience radio unique. Accueillant sans censure tous les sons, ils proposaient un panorama de la culture DJ, offrant l'antenne de Nova aux amis anglais, Jill Peterson, Ninja Tune et Grande Centrale, invitant journalistes, artistes, cinéastes, écrivains inscrits dans l'actualité à débattre et ce faisant initier une nouvelle idée de la radio musicale. En 98, Thomas Bangalter, Alan Brax et Benjamin Diamond publièrent le maxi Music Sounds Better With You sous le pseudo de Stardust sur le label des Daft Punk, Roulet Records. Le titre entra immédiatement dans la programmation des radios périphériques françaises. Le clip tourna en rotation lourde sur les chaînes musicales et plusieurs millions de copies s'écoulèrent à travers le monde. Avec Stardust, la French Touch passa à un niveau supérieur. De petit phénomène de mode, elle devint un raz-de-marée. Quelques mois plus tard, lorsque le premier album de Cassius parut, l'euphorie atteignit des sommets. Alors que les Daft Punk entretenaient habilement leur anonymat, d'autres acteurs de la French Touch acceptèrent sans sourciller un statut de pop star. Le monde entier s'arrachait des acteurs de la French Touch. Et pendant ce temps-là, producteurs, éditeurs, distributeurs et maisons de disques s'en mettaient plein les poches.
est irrésistible et grâce à lui, la musique électronique pénétra les foyers. La techno était partout, dans les clubs, à la radio, dans la presse, à la télé, au cinéma, etc. La publicité l'utilisait pour vendre parfums, chaussures de sport ou shampoings deux en un. Les bandes annonces en faisaient leurs bandes son, les défilés leurs bandes originales. Même les politiques l'utilisèrent. Lors d'un congrès officiel d'un parti de droite, l'entrée des Cadors se fit sur un des tubes house estampillé French Touch. Avec la French Touch arrivait enfin la reconnaissance pour les productions françaises. Mais la scène house et techno devaient encore combattre une idée reçue tenace. Ces artistes n'étaient pas de vrais musiciens puisque tout se faisait par ordinateur. On avait beau expliquer que l'ordinateur n'était rien d'autre qu'un instrument, qu'il fallait bien qu'un musicien compose ses mélodies pour que les machines les jouent, les préjugés étaient sérieusement ancrés. La seule voie qui permette de faire comprendre notre travail, c'était de sortir des studios et d'emmener la musique électronique sur scène. LFO et Orbital avaient ouvert la voie début 90, suivi d'Underworld, Prodigy, des Chemical Brothers, et plus près de nous, les Daft Punk et leurs performances live décapantes. Pour moi, les choses étaient claires, le changement viendrait de la scène. Le pari était aussi risqué que l'expérience intimidante. Si je me rêvais musicien, un gouffre séparait mon travail de studio de la maîtrise d'une musique jouée en live face à un public. De plus, passer d'une option solo à celle qui me confrontait à d'authentiques musiciens représentait un gros saut dans l'inconnu. Éric Morand m'encouragea à passer outre ses réticences. À cette époque, je fis la connaissance du batteur Daniel Béchet, fils de Sidney Béchet. On commença à se voir régulièrement, à travailler ensemble. Dès les premières semaines, je fus confronté à un problème. Laisser de la place aux musiciens dans mes compositions. Après 6 mois passés à repenser l'album en vue du live, j'envoyais les morceaux adaptés à Daniel Béchet et à Karine Laborde, violoniste classique originaire de Bordeaux. On travailla tous les trois pendant des mois. Christian Paulet, devenu entre-temps mon manager, me présenta mon premier ingénieur du son, Didier Lubin, dit Lulu, connu comme le Loup Blanc dans le milieu du rock et à l'origine de toute l'installation sonore du Rex. Dans la foulée, j'engageais Ulrich et Cacao, les créateurs de la troupe de danse des Nuits Blanches de Montpellier. Deux autres personnes furent engagées à la technique. Fred Kickmel, ancien régisseur du Rex, débauché pour venir assurer les lumières sur la tournée, et un backliner, Laurent Desflore. Grâce aux connexions de Karine, on nous prêta pour 3 jours le 400, une salle de concert bordelaise dans laquelle eurent lieu les répétitions finales dans des conditions live. C'est là que tous les membres du groupe se rencontrèrent pour la première fois. On s'engagea dans une tournée de 18 mois, écumant les festivals européens, puis enchaînant sur une tournée des salles de concert de province. Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Lille, Dijon. Durant ces concerts, mon rôle consistait à gérer les parties rythmiques, constituées de boucles courtes et de séquences depuis ma console, construisant durant le live de nouvelles orientations des titres et variant les directions à mesure que les morceaux défilaient. Je distribuais les rôles, définissais les segments sur lesquels les musiciens devaient jouer. Dans l'ensemble, l'accueil fut chaleureux et entre nous régnait une ambiance proche de la colonie de vacances. Ça faisait 6 mois qu'on tournait quand Éric Morand m'apprit que 30 était nominé aux Victoires de la Musique 98 dans une nouvelle catégorie dédiée aux musiques électroniques. Je n'avais jamais envisagé de participer à une telle cérémonie. Éric avait proposé 30 au comité sans me mettre au courant. Il serait toujours temps s'il le sélectionnait. Et l'album fut retenu. Les conditions dans lesquelles devait se dérouler la cérémonie étaient strictes. Les 5 nominés de la catégorie électronique devaient préparer un morceau en live, installer leur matériel, se plier aux balances de son et répéter la veille sur la scène de l'Olympia. J'avais choisi Acid Eiffel. Le 19 février 1998, j'arrivais à l'Olympia en début d'après-midi avec Daniel et Karine. On nous avait informé qu'un orchestre philharmonique serait présent et qu'il était à notre disposition pourvu qu'on leur distribue les partitions du morceau choisi. Une fois installé backstage, on demanda à voir le régisseur. Immédiatement, les vannes fusèrent. « Ah ouais, c'est vous les gars de la techno! Votre musique, c'est vraiment de la merde !» Ma femme, arrivée par l'entrée principale quelques minutes après nous, s'installa discrètement dans la salle et entendit les railleries des techniciens. « La techno à l'Olympia, c'est la honte !» Derrière la scène, on supportait le mépris général, les mâchoires serrées. Jusqu'à ce que Lulu, très respecté dans le milieu, apparaisse. Les techniciens d'Olympia vinrent le saluer. « Bah, qu'est-ce que tu fais là, Lulu ?» Lui. « Je suis l'ingé de son de Garnier ?» Un ange passa. Puis c'est à Daniel Béchet que les techniciens vinrent serrer la main, posant la même question. « Ben, je suis avec Garnier. » Il n'en revenait pas. « Quoi ? Tu joues cette musique à 2 francs ?» Et Daniel de s'amuser. « Tu rigoles, je m'éclate. On fait des salles de 6000 personnes. » Ce fut à nous de faire les balances. Sous les regards méprisants des techniciens et dans une ambiance glaciale, on commença à installer notre matériel. Karine distribua à l'orchestre les partitions des cordes d'Acid Eiffel et aussitôt les musiciens se moquèrent. « C'est tout ce qu'on doit jouer ?» Mais la section de cordes se montra bientôt incapable de jouer sa partie en rythme. Karine leur montra, les violonistes calquèrent leurs mouvements sur elle, puis une nouvelle fois se perdirent. On arrêta la musique, Karine fit face à l'orchestre. « Bah alors, Il paraît que c'est facile. Vous devez attaquer les parties de cordes à contre-temps. Mais je pouvais comprendre que les gens de l'Olympia, qui ne connaissaient la techno que parce que les médias en disaient, puissent être choqués de l'avoir pénétré dans un temple de la chanson qui avait accueilli Brel ou Piaf. Une fois la répétition finie, on remercia tous les techniciens poliment et on partit. Ici, mon récit s'accélère. Le lendemain, j'enfilai un costard, me rendit à l'Olympia, prévint les organisateurs que je devais mixer dans la nuit au festival I Love Techno de Gand. L'heure de la remise des prix pour la catégorie électronique fut avancée. 30 gagna. Je dédiais ce prix à toute la scène techno. On joua à Sid Eiffel et on sauta dans ma techno mobile direction la Belgique. Une voiture de police m'attendait à la frontière. Les policiers me firent signe de m'arrêter et m'expliquèrent que Peter Décuper, le promoteur de I Love Techno, leur avait demandé de m'escorter jusqu'au festival. Tout gyrophare dehors, les policiers me conduisirent directement aux portes des backstage. Là attendaient des bouteilles de champagne, des mots de félicitations, autant de petites attentions pour dire « on est content pour toi ». Lorsque je suis monté sur scène pour jouer mon set DJ, je me suis rendu compte que le public avait lui aussi été informé. Il était heureux pour moi et l'exprima par une salve d'applaudissements. C'était très émouvant. Je me suis lancé dans mon mix et c'est ici en Belgique, face à 6000 personnes, hilar, que j'ai fêté en costard ma victoire de la musique.
Cette victoire de la musique permit à F Communication de se connecter avec des gens de l'industrie du disque ou de la culture qui n'avaient rien à voir avec la musique électronique. Mais elle fit de moi une sorte de pantin porte-parole de la techno. Les médias, sans penser à m'interviewer sur mon travail, ne cessaient de m'interroger sur l'amalgame techno-drogue ou sur la French Touch, mouvement auquel ni FCOM ni moi n'avions réellement été associés. Ça devenait totalement stérile. Parallèlement, dans le milieu, les mauvaises langues allaient bon train. Combien de fois ai-je entendu « Garnier s'est vendu ». On a décidé de sortir mon nouveau maxi « Dangerous Drive » à seulement 300 exemplaires et de ne le vendre que dans les bureaux de FCOM. Bref, d'aller à l'opposé d'une logique marchande qui aurait consisté à presser 10 000 disques avec un sticker « Victoire de la musique ». On continua notre tournée live jusqu'à la fin de l'année 98, écumant l'Angleterre, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, la Hollande, la Scandinavie, la Suisse. En été, on fut invité à jouer au Jazz Festival de Montreux. Je ne concevais pas d'y jouer sans avoir dans mon répertoire un morceau de jazz en forme d'hommage. Durant une répétition en Irlande, j'avais trouvé un gimmick que j'avais sommairement baptisé Jazzy Track. Deux jours avant le concert, je fis la connaissance du saxophoniste Finn Martin. On profita du break qui précédait Montreux pour travailler sur ce morceau qu'on improvisa lors du concert. Sur les routes, le phénomène French Touch s'intensifiait encore. Septembre 98, Paris accueillit sa première techno-parade. S'il fallait convenir d'une date pour l'explosion de la techno en France et le couronnement de la French Touch, ce serait celle-ci. À l'initiative de cette parade Technopole, l'association de défense de la techno, dont le projet avait trouvé un nouvel écho lorsqu'à l'été 97, Jack Lang, qui assistait à la Love Parade de Berlin, avait déclaré aux médias qu'il serait bon que Paris accueille un événement comparable. Les gens de Technopole avaient saisi l'occasion et donc relancé leur action auprès des autorités. Parallèlement, ils étaient entrés en contact avec les différents acteurs de la scène techno, dont FCOM. Le projet d'une parade techno à Paris fut alors imaginé. Des réunions s'organisèrent avec le ministère de l'Intérieur, des préfets, des cadres de la gendarmerie, des représentants des stupes et des responsables du ministère de la Culture. Autant de réunions qui visaient à éclairer les différentes administrations sur les réalités de la culture techno, la notion de rassemblement, l'état d'esprit qui présidait aux rêves, etc. Parallèlement, Technopole engagea un dialogue avec des responsables de la SACEM afin de leur faire comprendre que les DJ étaient des artistes et qu'il était urgent de leur définir un statut, mais les choses stagnaient. C'est alors qu'on rencontra Jack Lang qui devint un allié de poids. Sous son parrainage, la préfecture accepta de travailler au projet d'une parade techno. Cependant, on réalisa très vite que l'administration tenait un double langage. En public, elle déclarait « La techno, c'est super, c'est la musique de la jeunesse ». Mais quand il s'agissait de collaborer, la préfecture ignorait nos conseils et nos demandes de moyens logistiques. Qu'importe, la parade aurait lieu. Après avoir investi les radios et pénétré les foyers, la techno descendait dans la rue. On entrait même au musée. Des propositions artistiques s'organisèrent autour de la techno-parade à travers les rendez-vous électroniques, dont les expositions Sonic Process et Global Techno qui investirent le centre Georges Pompidou.
technoparade parisienne eut lieu le 19 septembre 1998. C'était une histoire de famille. Tous les acteurs de la scène techno française répondirent présents. Des dizaines d'organisateurs étaient venus de toute la France pour faire défiler leurs chars colorés sur lesquels mixaient tout ce que le milieu comptait de DJ. Un cortège joyeux traversa Paris depuis la place d'Enfer Rochereau jusqu'à la place de la Nation. C'était un samedi ensoleillé, une journée idéale. F Communication s'était associé au Rex Club pour monter le char des explorateurs. On avait saturé notre plateforme de plantes luxuriantes. Les chars traversaient les grandes artères parisiennes, partout des sourires, des couleurs. Au balcon, on voyait des groupes d'enfants qui dansaient, des gens qui nous saluaient. Lorsque le cortège arriva à place de la Bastille, je n'y tins plus. Je m'emparais d'un micro et hurlais « La techno a pris la Bastille !» On était heureux. Cette parade était l'aboutissement de 10 années de combat pour tenter d'imposer cette musique en France. On arriva à destination en fin d'après-midi. Sur la place de la Nation, une grande scène avait été installée et plusieurs kilos de son avaient été répartis. Il était convenu avec la préfecture que la fête devait s'arrêter à minuit. Carl Cox, Manuel Malin, Jack de Marseille et le groupe Kojak, pour l'un de ses premiers concerts, se relayèrent sur la grande scène. Dans la foule, on pouvait voir des badauds, des couples avec leurs gamins et des milliers de ravers venus fêter un jour historique. Mais à la tombée de la nuit, les problèmes commencèrent. 200 fouteurs de merde venus chercher l'embrouille se mirent à insulter les filles et à déclencher des bagarres un peu partout sur la place de la Nation. Ça s'est envenimé. Je devais clôturer la soirée. Depuis la scène, j'apercevais des gens qui se tapaient dessus. Voyant que la situation dégénérait, les organisateurs écourtèrent mon set. J'ai vu des bandes de types s'attaquer avec une violence inouïe à des rêveurs inoffensifs. Des membres de la Croix-Rouge se faire molester alors qu'ils portaient des blessés sur leur civière. Les gens couraient dans tous les sens, tentaient de sortir de ce merdier. C'était dingue. 200 connards avaient réussi à terroriser 50 000 personnes. Lors de la Love Parade de Berlin, qui réunissait 1 million de rêveurs dans ses rues, il n'y avait pas eu la moindre violence. Mais cette première édition de la Technoparade, longtemps rêvée comme un modèle de pacifisme, tourna au vinaigre. Le temps de ranger mes disques, de descendre de la scène, et je réalisais que tout le staff avait quitté le navire. On s'est retrouvé à 7, dont Lenny D, derrière la scène. On était coincés, bloqués derrière les grilles avec nos caisses de disques de 40 kilos. Il était impossible d'imaginer courir avec de tels poids sous nos bras. Partout, on voyait des enragés briser les pare-brises des voitures garées ou décrocher les enceintes de la grande scène pour les fracasser sur le sol. Un type coincé avec nous derrière la scène prit le risque d'aller chercher sa voiture. Pendant plus d'une heure et demie, on l'attendit en flippant. Lorsqu'il apparut enfin, on s'entassa tous dans sa voiture, priant pour sortir du périmètre de la place de la Nation. Sans dommage, j'étais dégoûté. Round the world. Parade marquait un nouveau tournant. En 2 ans, la musique électronique était passée en France de statut de courant musical à celui de phénomène culturel. Grâce aux ventes de disques de la French Touch, elle jouissait désormais d'un crédit illimité. Le grand public comprenait enfin qu'il n'y avait aucune raison de diaboliser la techno, qu'on lui présentait désormais sous les traits de jeunes gens dynamiques et taillés pour le succès. Mais comme toujours dans ces cas-là, les dérives mercantiles menaçaient. M'engouffrer dans la brèche et céder aux sirènes de l'argent facile, car les majors jouaient du shaky avec une déconcertante facilité, c'était très tentant. Et je comprends aisément que beaucoup se soient laissés séduire, mais je choisis de rester en marge et de me concentrer sur d'autres objectifs.
Le Chat Noir Production vous a présenté Electrochoc.
Retrouvez l'émission sur le forum, le chat noir, forum,
Chat Noir Production vous a présenté.
http://lechanoir.forum.com et ça s'écrit lechanoir.forum.com et deux fois par mois le mercredi soir sur Radio Campus Bordeaux 88.1
vous a présenté Électrochoc.